EMCI TV vous présente l'émission Teach avec Atoms. Un temps d'enseignement et d'étude de la parole de Dieu afin de faire de vous des disciples et vous aider à grandir dans votre foi.
Bienvenue sur Teach, votre mission d'enseignement et de maturité spirituelle. Vous ne savez pas combien je prends au sérieux ces mots, enseignement et maturité spirituelle. Nous venons dans cette émission parce que nous croyons que Jésus-Christ vient récupérer, prendre, enlever une église mûre, mature. C'est pour ça qu'il nous a demandé de faire de toutes les nations des disciples. Devenir des disciples de Jésus-Christ, c'est la raison d'être de tout ce système appelé EMCI TV. On veut vous voir grandir. Une fois que vous avez donné votre vie au Seigneur, on veut vous voir grandir, on veut vous préparer à son retour, afin que quand il viendra, on monte dans les airs. Justement, son retour est écrit dans un livre que de plus en plus l'Église a tendance à négliger et les chrétiens considèrent normal de ne pas y toucher. Pourtant, ce livre se trouve dans la Bible, l'Apocalypse. Depuis le début de cette semaine, on a parlé de l'Apocalypse. Et aujourd'hui, j'aimerais juste toucher la question de la Nouvelle Jérusalem. Je vous ai promis que je ne vais pas vous amener dans beaucoup de complexité, juste tirer des idées générales d'abord pour vous approcher. J'essaie de vous appâter, si je dois trouver les termes. J'essaie de vous attirer vers le bonheur et le bien-être de ce livre particulier appelé l'Apocalypse. Alors, let's teach. Grandissons ensemble. Nouvelle Jérusalem. C'est bien clair. Ça s'appelle Nouvelle parce que, voilà, il y a Jérusalem, l'ancienne, le Jérusalem du peuple juif, dans toute l'histoire de la Bible. Alors, Jean voit et il appelle ça une Nouvelle Jérusalem. Jérusalem, dans la Bible, a beaucoup des promesses de Dieu. Dieu décrit Jérusalem comme son lieu bien-aimé, là où il manifeste sa grandeur. Vous savez où se trouve Jérusalem, l'ancien Jébus. Du côté de l'ancien Moria. Il explique le tout ça. On montre que c'est une montagne sainte. Dieu appelle ça encore par un nom poétique, Sion. Il y a bien d'alliance avec cet endroit où est construit les temples aussi de Dieu. Alors, puisqu'il va avoir temple, il va avoir rencontre, il va avoir ce contact avec Dieu, cet endroit, ce lieu, cette sorte de pic de montagne, s'appelle encore une fois de plus Nouvelle Jérusalem. Pourquoi? Parce que dans la conception juive, dans la conception biblique de l'univers, Dieu est dans son trône de gloire, c'est-à-dire son milieu où nous ne pouvons pas y accéder, sa réalité personnelle. Et il y a un point de contact entre Dieu et nous, c'est les hauteurs de la montagne. Ce n'est pas littéralement physique, ça veut juste dire que l'homme se place à un niveau de contact avec le divin. Et souvent dans la Bible, c'est représenté comme la montagne. Et c'est à cette montagne-là que se trouve un peu les pieds, le début, le point de commencement du contact avec le divin. Certes que vous verrez même littéralement que les autels sont bâtis à la montagne, c'est là-bas que le temple y est bâti. Et même que Dieu a commencé à voir une réputation dans l'Ancien Testament comme étant un dieu des montagnes. On dit, leur dieu, c'est juste un dieu des montagnes. Il ne sait rien faire dans les vallées. Dieu s'en est fâché. Il a dû faire une bonne démonstration pour prouver qu'il était vraiment un dieu de partout. Mais il y a quelque chose de symbolique fort dans l'expression de la montagne qui rejoint la pensée de Dieu dans sa relation avec l'être humain. Jérusalem est donc bâtie comme cette ville sur une montagne, il y a tout le symbole nécessaire. Dieu, en essayant de prendre cette ville, le donner au peuple d'Israël, la donner sous la direction de David, il y a un symbolisme fort. Le symbole que Dieu voulait accomplir pour exprimer ses réalités spirituelles, il a accompli à travers Jérusalem. C'est pourquoi, lorsqu'il veut renouveler ciel et terre, renouveler le lieu d'habitation pour les êtres humains, refaire, purifier cet univers, son plan parfait s'appelle à nouveau Nouvelle Jérusalem. C'est le terme que Jean utilise ici. Mais quel est le message que communique cette idée de Nouvelle Jérusalem que Jean est en train de voir ici dans Apocalypse? On est déjà vers la fin, on est au chapitre 20, ainsi de suite. La première des choses, c'est que le mal aura une fin définitive. Un jour, frère, le mal s'arrêtera. Ouais, un jour. Un jour, le mal s'arrêtera. Pas ici sur la terre, pas dans les cours et tribunaux, mais un jour, le mal s'arrêtera. Quand Jean voit dans l'Apocalypse, la Nouvelle Jérusalem, les livres d'Apocalypse veulent nous donner comme message qu'un jour, le mal s'arrêtera. En lisant Apocalypse, vous comprenez, frère, que, allez, ce n'est pas seulement comme si tout pays, c'est ce pays ici-bas. Non, il y a une autre facture à payer plus tard. Un jour, le mal s'arrêtera. Le monde est devenu un mauvais film dans lequel le méchant gagne. À la fin de tout, malgré les efforts de l'héros et de l'héroïne, le méchant finit le film en ricanant. Ce sont les corrompus qui maîtrisent et gèrent les systèmes. Le peuple croupit dans le malheur. Une minorité des personnes rient en manipulant leurs semblables, en se rassurant qu'ils consomment, vivent et expriment des choses qu'une minorité en connaît les véritables secrets. Et cette minorité se considère comme toute puissante à gérer l'humanité. Apocalypse appelle tous ces systèmes-là une bête, avec des nombres de têtes montrant justement les différentes organisations et les intervenants dans ce système minoritaire en collaboration avec le diable tentant de gérer le monde. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'un jour, ça s'arrêtera. Ça s'arrêtera peut-être pas le jour où on t'a accusé dans un tribunal à tort, on a inventé un système, on a fait voter des lois pour avoir des droits sur nos enfants. Ça s'arrêterait pas là. Là, pas là, peut-être. Certainement pas. Mais un jour, ça s'arrêtera. Un jour, il n'y aura plus de mal. Tout sera enfermé, mis loin. Un jour, les hommes n'essayeront plus. Un jour, il n'y aura pas de raison de soupçonner. Un jour, on aura juste un cœur de paix et de joie. Un jour arrive, un endroit arrive où ça sera pas comme ici. Un jour arrive et le mal s'arrêtera. Apocalypse 20, verset 10, la Bible dit, « Et le diable qui les séduisait fut jeté dans l'étang de feu et de soufre où sont la bête et le faux prophète. Et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. » Un jour, tous ces trios-là, bête, faux prophète et le diable, tous seront ensemble. Ça sera à leur tour de rester tourmentés jour et nuit pour des siècles et des siècles. 1 Jean chapitre 3, verset 8. « Celui qui pêche est du diable. » Car le diable pêche dès le commencement, le Fils de Dieu apparu afin de détruire les œuvres du diable. Vous voyez? Jésus-Christ est venu sur la terre afin de faire finir cette affaire. Quand Christ est passé, mes amis, un programme s'est lancé. C'est fini, en fait. C'est déjà fini. On est juste en train d'attendre s'accomplir. Le livre d'Apocalypse nous donne ce message fort que le mal a une fin. Elle aura une fin définitive. Ça sera pas un tyran qui part pour laisser place à un autre tyran qui commence un peu comme un agneau et qui finit par tyranniser. Non. Il y aura plus ce cycle-là. Un jour, tout ça, ça va finir. Je ne sais pas comment je serai. Est-ce que je serai conscient de ma famille, de ma femme, de mes enfants, de mes petits-enfants, de mes arrière-petits-enfants? Est-ce que je serai conscient de ma vie que j'ai passée sur la terre? Est-ce qu'on se verra là-bas? Est-ce qu'on se connaîtra? Est-ce que j'aurai cette peau? Est-ce que je serai capable de voler dans l'air? Je ne connais pas tout ça, mais je suis content de savoir que le mal s'arrêtera et que la pression quotidienne de bien et de mal terminera complètement. Merci Seigneur d'avoir prévu un jour comme celui-là. La deuxième vérité à savoir, c'est que Dieu essuie et essuiera toutes les larmes. Lorsqu'on voit, on lit Apocalypse et qu'on voit la Nouvelle Jérusalem, le message de la Nouvelle Jérusalem, c'est que Dieu essuie toutes les larmes. Quand on marche avec le Seigneur, on doit savoir qu'il ne nous a pas promis de ne pas pleurer. Non, il y aura des choses qui nous feront pleurer. Parce que notre chair en souffre, parce que c'est contraire à notre humanité, parce que c'est inhabituel, parce que c'est injuste. Il a dit ceci. Lui, lorsqu'on sera en train de pleurer, il essuiera nos larmes. Je ne sais pas si tu pleures maintenant, mais les livres d'Apocalypse dont tu as peur là, c'est la meilleure édification pour te rappeler et te montrer la promesse selon laquelle Dieu essuie les larmes. Apocalypse 21, verset 4. Il essuiera toute larme de leurs yeux et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, alléluia, ni cri, gloire à Dieu, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Waouh! Il n'y aura plus pleurs, il n'y aura plus de deuil, on n'enterrera plus personne. C'est un jour comme ça existe. Un temps comme celui-là est vrai. On n'aura plus besoin d'aller aux funérailles. Ça sera terminé. Nos pleurs vont sécher. Car l'agneau de Dieu sera élevé pour toujours. Ah, quelle bonne nouvelle. Nos pleurs ne seront pas permanentes. Ésaïe chapitre 25, verset 8 dit « Il anéantit la mort pour toujours. Le Seigneur, l'Éternel, essuie les larmes de tous les visages. Il fait disparaître de toute la terre l'opprobre de son peuple, car l'Éternel a parlé. » Vous imaginez? Même Ésaïe, depuis cette époque, même chose, il a vu la même chose. Ce jour-là arrivera. L'Éternel a parlé, l'Éternel a prophétisé. Il a dit bien avant, un jour... ça sera terminé. J'aime l'image. Il n'a pas dit que il fera juste en sorte que ce qui vous fait pleurer ne soit plus. J'aime bien l'image telle qu'elle est présentée. La Bible dit, c'est lui qui viendra essuyer les larmes. Waouh. Il va pas juste chasser ce qui nous fait peur, et ce qui nous fait pleurer. Non, il va venir vers nous et il va s'occuper de nos larmes. Je ne sais plus quelle est la dernière fois où on m'a essuyé les larmes. Je devais avoir été très, très petit. Avec le temps et l'âge, je pleure moins. Et je pleure à l'intérieur. Et les quelques fois où j'ai des larmes, c'est dans la prière. Et franchement, personne ne vient l'essuyer. Mais je vois le moment où j'essuie les larmes de mon fils. Quand une chose l'a heurté et qu'il souffre. Je vois comment ça abonde dans ses yeux. Et comment il se laisse faire quand j'essuie ses larmes. Et ce petit moment renforce tellement notre relation. Ça fait qu'il a confiance en moi. Et il sait que mon père est là. Un jour, je serai entre les bras de Abba. Je ne sais pas comment il fera ça simultanément. Il est Dieu ou chacun à son tour. On sera à la liste, on nous étendra. Je ne sais pas comment il va faire. Mais je sais que de manière individuelle, pour moi, j'aurai cette même sensation que mon fils a le moment où j'essuie ses larmes. Il essuiera mes larmes. Ce qui me donne toute la joie de pleurer pour les bonnes raisons. Pas pour manger et boire. Pas pour le pouvoir et la gloire. Je veux pleurer pour les choses qui te font pleurer. Je veux que mes larmes coulent pour la cause. Éternel, je veux pleurer pour les raisons qui me feront pleurer de l'autre côté du temps. Et tu viendras et tu essuieras mes larmes. Celui qui essuie les larmes est vivant et c'est lui qui vit dans ta vie. Je ne sais pas par quoi tu es en train de passer, je ne sais pas qu'est-ce qui t'a fait pleurer. Ce n'est pas une compétence qu'il a réservée que au dernier jour. Il peut essuyer tes larmes maintenant. Il peut te faire oublier cette chose. Il peut te donner un grand sourire au milieu de tes larmes et complètement faire arrêter cette pluie qui jaillit de tes yeux, juste par son amour. La troisième vérité qu'on découvre, Nouvelle Jérusalem, livre d'Apocalypse, c'est qu'il y a une cité sainte qui descendra du ciel vers la terre. Oh, belle description. Apocalypse chapitre 21, verset 2, la Bible dit, « Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. » Ok. La vision montre que la nouvelle Jérusalem, elle est déjà faite. Elle est déjà préparée. Elle est déjà une cité qui descend. On commence à comprendre quand Jésus dit « Je m'en vais vous préparer une place ». C'est déjà fini, le travail, l'œuvre est déjà faite et la cité sainte descendra du ciel vers la terre. Cette fois-ci, c'est parfait. Ça ne vient plus de la poussière maintenant. Cette fois-ci, ça vient d'en haut et ça descend sur la terre. Oh, gloire à ton nom, Seigneur. Merci du fait que tu es en train, pendant que nous vivons ici, tu prépares cette cité qui descendra en notre faveur. C'est parce que nous croyons que ces choses sont vraies, frères et sœurs, que nous ne manquons pas de venir jour et nuit, de servir et d'être là debout et de parler de la part de Dieu. Parce que nous savons que c'est vrai. Elle descendra d'en haut, la cité nouvelle. Là où il n'y aura ni cri, ni pleurs, ni deuil. Ah, gloire à ton nom, Seigneur. Matthieu chapitre 6, verset 10, la Bible dit, « Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » Ce jour-là, il y aura l'exaucement parfait de cette prière. Ça va descendre sur la terre comme c'est exactement au ciel. La quatrième des choses, c'est que Dieu habitera enfin avec son peuple pour toujours. On aura une dimension nouvelle d'Emmanuel. Enfin, Dieu habitera avec son peuple pour toujours. Il n'y a pas une question d'une onction qui vient ou d'une présence qui vient et s'en va. Enfin. Apocalypse 21, verset 3. Et j'entendis du trône une voix forte qui disait, voici les tabernacles de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux. Ils seront son peuple et Dieu lui-même sert. Dieu lui-même, pas la colonne, Dieu lui-même, pas la nuée, Dieu lui-même sera avec eux. Je me souviens, avant que je ne vienne habiter au Canada, ma famille était encore en Afrique, au Kenya en particulier en ce moment-là, et on priait à distance de pouvoir être ensemble. Plus ça tardait, plus ce jour-là devenait fort, ça devenait intense. Je voulais ce jour, je voulais que ça arrive. Je me souviens être parti au Kenya, avoir eu la bonne nouvelle qu'on allait venir, on attendait nos passeports, finalement c'est arrivé. Et on a pris l'avion, on est descendu à l'aéroport, on est arrivé chez nous à la maison, on était là. On était là. Mes enfants se réveillaient le matin, j'étais là. On n'en revenait pas. Chacun pouvait sortir et revenir, on revenait au même endroit. Enfin, on était là ensemble. Cette sensation de se rendre compte qu'on est réunis. Je sais quoi, comment ma femme m'a serré très fortement dans ses bras en disant « on est là finalement, on reste ensemble ». Je savais comment elle devenait nerveuse à force des distances. Pour moi, c'est une bonne nouvelle de savoir qu'on vivra ensemble. Je n'aurai plus besoin de fermer les yeux pour prendre conscience de lui. Je ne sais pas comment il va faire ça, mais on vivra ensemble. Lévitique chapitre 26, versets 11 à 12, la Bible dit « J'établirai ma demeure au milieu de vous, et mon âme ne vous aura point en horreur. Je marcherai au milieu de vous, je serai votre Dieu et vous serez mon peuple. » Des promesses qu'il a faites, qu'il a accomplies, ce n'est pas seulement pour les dernières heures. Le livre d'Apocalypse te dit que Dieu est avec toi. Faut lire le livre d'Apocalypse, c'est intéressant, c'est rempli de profondeur. Cinquième chose qu'on peut apprendre lorsqu'on parle de la Nouvelle Jérusalem et de tout ce que ça représente dans le livre de l'Apocalypse, c'est que l'héritage promis aux vainqueurs leur sera donné. Il y a un héritage qui est promis aux vainqueurs. Et cet héritage-là sera donné. Apocalypse 21, verset 7, la Bible dit, « Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. » Oh, mon fils, il sera mon fils. Oh, je voudrais que Dieu m'appelle comme ça, mon fils. Waouh. Celui qui vaincra héritera ces choses, je l'appellerai. Et je serai son Dieu, il sera mon fils. Plus mon peuple, mon fils. Dieu nous a promis un héritage plus fort. Mes amis, l'héritage, ce n'est pas le positionnement matériel. Ce ne sont pas des fonctions que les hommes créent. Dieu ne t'a pas promis le fait simplement qu'on va faire une fonction de super manager, de head of. C'est juste ça, toute ta vie, c'est juste une fonction. Quelqu'un a dit un jour, Dieu m'a fait des promesses, un jour j'aurai des belles voitures. J'ai dit, hey, pourquoi tu n'inventes pas les voitures? Et ceux qui inventent les voitures, quelle est la promesse de Dieu? Dieu leur a fait à eux la promesse de les inventer et à toi la promesse de les acheter. C'est vrai que Dieu prend soin de nous, de nos véhicules et toutes ces choses, ce sont des détails dont on a besoin dans notre quotidien. Mais il y a mieux, il y a beaucoup mieux, il y a beaucoup plus. Il y a un héritage meilleur que celui-là. Il nous l'a promis. Si nous restons fidèles jusqu'au bout, si nous résistons, si nous arrivons à vaincre, nous l'aurons. Romains chapitre 8, verset 17 dit, « Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifié avec lui. » Oh, héritier et co-héritier. Co-héritier, héritier dans la souffrance déjà, afin d'être glorifié avec lui. C'est ça le problème. Les choses dont je vous parle ici, que toutes ces promesses dont parle l'Apocalypse, c'est pour ceux qui déjà à présent acceptent de vivre et de passer par les souffrances du Christ. N'allez pas vous faire souffrir, mais soyez fidèles jusqu'à la mort. Capable de vivre les conditions de souffrance qu'apporte la confession de votre foi. Votre positionnement peut être l'objet des douleurs et des difficultés que vous allez subir. Restez-y, ne vous compromettez pas pour chercher de l'aisance en laissant tomber votre confession de foi. Ceux qui sont prêts à tenir ferme en restant droit dans la vérité subiront de souffrances sur la terre. Mais ces souffrances-là les qualifient à la gloire à venir. Souffre comme ton maître, tu joueras aussi comme ton maître. Passe par la douleur, porte ta croix et tu auras aussi ta couronne. Porte ta couronne d'épines et tu auras aussi ta couronne de gloire demain. Frères et sœurs, j'ai passé toute cette semaine avec un seul but, juste vous donner envie. Je me préparais à enseigner beaucoup de choses dans l'Apocalypse et puis je me suis rendu compte, tiens, on dirait qu'on n'aime pas lire l'Apocalypse. On dirait que peu de chrétiens vous disent qu'ils ont lu l'Apocalypse. C'est presque rare de rencontrer un frère et dire « Ah, qu'est-ce que tu as lu aujourd'hui ?» Il te dit « Apocalypse ». C'est parce que d'une certaine manière, c'est apocalyptique. Les gens, ils pensent destruction plutôt de penser révélation. Les gens, ils pensent événement bizarre plutôt que de penser manifestation de Jésus et projet de Dieu. Mon but, durant toute cette semaine, c'était juste de faire sauter cela dans votre tête, d'échanger vos sentiments vis-à-vis de ces livres pour que vous puissiez vous y approcher de tout cœur. L'Apocalypse révèle Christ et Christ nous montre toute sa nature dans la gloire, avant, maintenant et dans l'avenir. Les promesses sont claires. L'Apocalypse est digne d'être lu. Ça entraîne votre vocabulaire d'adorateur. Prenez la décision cette semaine qui commence. Lisez l'Apocalypse. Il n'y a qu'une vingtaine de chapitres. Ça va finir vite. Lisez calmement et vous verrez que l'Esprit parlera à votre cœur. En parlant de lire, j'aimerais vous lire un témoignage, un commentaire qu'a laissé un frère. Il a laissé un commentaire en tant que partenaire de EMCI. Et son commentaire m'a juste touché. Et je me suis souvenu que c'est pour de pareilles choses qu'en réalité nous faisons cette œuvre, ces enseignements. C'est pour, quand on entend de pareils témoignages, c'est vraiment encourageant. Je veux vous lire ce qu'il a écrit. C'est la fin d'un an que j'ai rejoint la famille des partenaires EMCI. Je me souviens que c'était pendant l'émission « Qui tu es ?» avec le pasteur Atoms. Il a parlé du partenariat, mais au début, j'étais hésitant. J'avais beaucoup de projets, dont un que Dieu avait mis sur mon cœur, une campagne d'évangélisation dans mon village. Mais les moyens me manquaient et je ne voyais pas comment m'en sortir. Un jour, le Saint-Esprit m'a convaincu de m'engager quand même. J'ai obéi, même si c'était difficile financièrement. Mon premier don a été fait avec des larmes aux yeux, en pensant à ces versets. « Celui qui sème avec larmes récoltera avec chant d'allégresse. » Alors que rien n'est bougé pour le projet d'évangélisation, Dieu a touché le cœur d'une sœur en France qui a financé 80% du projet. Ce fut véritablement un miracle. On a pu aller au-delà de tout ce qu'on avait prévu et Dieu s'est glorifié. Depuis, je continue à donner chaque mois avec joie. Je veux encourager chacun à devenir partenaire. Dieu agit vraiment au travers de cette œuvre. Merci à EMCI d'être un canal de bénédiction pour nos vies. J'aimerais que EMCI devienne un canal de bénédiction pour vous aussi. L'œuvre que nous sommes en train de faire n'est pas une œuvre humaine, c'est l'œuvre de Dieu. Quand vous sémez dans l'œuvre de Dieu, le Seigneur sait comment vous le rendre au centuple. Ne tardez donc pas. Allez sur emcitv/don. Inscrivez-vous et devenez un partenaire qui donne régulièrement. Il n'y a pas de petits dons insignifiants. Ce que Dieu vous a mis entre les mains, c'est déjà une grande bénédiction. Ce que vous avez, commencez à donner dès maintenant pour aider cette œuvre à aller plus loin. Regardez ses frères, il a sémé dans l'évangélisation que nous sommes en train de faire ici ensemble. Et lui, ou elle, je n'ai pas bien vu le nom, voulait aussi faire de l'évangélisation. Et l'Éternel a pris soin de lui, a choisi une sœur qui a donné tellement. Sachez-le bien que si vous êtes la réponse de Dieu dans une prière pour son œuvre, Dieu vous enverra aussi une autre personne qui sera une réponse pour vous. Faites donc de MCI votre terrain de sémence de la bénédiction. Et vous verrez que vous-même, vous deviendrez aussi une bonne terre de sémence pour quelqu'un d'autre. Bienvenue à vous en tant que partenaire et très bonne fin de semaine. Que Dieu vous bénisse.
Cette émission a pu être réalisée grâce au précieux soutien des partenaires d'EMCI TV. Retrouvez toutes les émissions de Teach sur emcitv.com.